Salut à tous, bienvenue dans Terre débattue, votre podcast durant la quinzaine à Roland-Garros. Le tableau, messieurs, se précise avec les premiers qualifiés pour les demi-finales. Tsitsipas et Zverev, on va parler de tout ça avec nos experts Bertrand Millard, Laurent Vergne et Camille Pin. Bonsoir, bonjour à cette heure-ci, je ne sais plus vraiment comment ça va.
Ça va,
tout le monde.
Contrairement aux apparences, je suis à Roland-Garros, mais malheureusement le cours est de l'autre côté.
Allez, ne restez pas enfermés à Roland-Garros, Bertrand, on va se dépêcher. On vient donc d'assister en session de nuit au quart de finale entre Tsitsipas et Medvedev. Que retenir de ce match? Beau match, grand match, choc décevant, ce sera le débat du jour. La question qui fâche, finale à l'US Open, vainqueur en Masters 1000, désormais demi-finaliste à Roland-Garros après sa victoire sur Davidovich Fokina. Zverev enchaîne les perfs et pourtant, est-il vraiment reconnu à sa juste valeur? N'est-on pas trop dur avec le sixième joueur mondial? Sans oublier la stat de jeu 7 et mat, le compte Twitter dont nous sommes partenaires, et puis l'affiche du jour ce mercredi. Gros plan évidemment sur la première night session avec du public. Et ce sera un explosif Djokovic-Berrettini. Terre débattue, c'est parti! Alors le débat du jour, on va revenir évidemment sur ce match qui s'est terminé en session de nuit entre Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev avec la victoire en 3-7, 6-3, 7-6, 7-5 de Stefanos Tsitsipas. 2h19 pour venir à bout du numéro 2 mondial. La question elle est simple, hein, Camille, Laurent, Bertrand. Que retenir de ce match? Est-ce que c'était un grand match, Bertrand?
Non. Je pense que ça aurait été un grand match, ça aurait pu être un grand match si Medvedev avait par exemple gagné ce troisième set et qu'on s'était lancé dans un match un peu plus serré, un 4-7 ou un 5-7. Ça n'était pas un grand match, mais c'était un bon match en revanche, un très bon match de tennis. Je me suis régalé personnellement en tribune de presse à suivre cette rencontre parce que j'ai vu du beau tennis, j'ai vu une construction tactique magnifique de la part de Tsitsipas qui est vraiment à l'aise, encore une fois on l'a déjà dit, mais très à l'aise sur terre battue et sur cette surface. J'ai vu un Medvedev qui était loin d'être maladroit aussi aujourd'hui, qui a fait très belles choses, qui a été beaucoup moins constant en revanche que son adversaire. Il y a aussi eu des trous, notamment le jeu où il est débreaké au troisième, parce qu'il avait quand même ce break d'avance au troisième set où il passe complètement à côté du jeu où il est débreaké. Mais on a vu des choses magnifiques. On a vu ce twinner lobé de Medvedev derrière lequel il fait le point. On a vu des points
des gentils, Bertrand.
Vraiment. Non, on a vu des points magnifiques. Moi, je trouve.
Oui, d'accord, mais ça fait pas un bon match.
Ça fait un bon match pour moi. Si, c'était un bon match de tennis. Je trouve que ça jouait bien au tennis. Et Medvedev a eu. Voilà, effectivement, il a eu du mal à démarrer et après, il a eu aussi des moments où il a coincé, comme dans cette troisième manche où il avait le break d'avance. Et Tsitsipas me bluffe. Je trouve qu'il est fluide, je trouve qu'il est clinique. Il s'énerve jamais, même quand il est breaké au troisième. Il est vraiment dans son truc. Il a l'air d'être vraiment prêt. Il sait où il va et il joue un excellent tennis. Et il va arriver frais en demi. Donc, c'était pour moi un bon match et surtout un bon match de Tsitsipas.
Qui m'a plu, moi, dans ce match, c'est sûr qu'on aurait aimé un petit peu plus d'adversité pour le côté spectacle. Par contre, ça confirme tout ce que je pense de Tsitsipas depuis un moment, et notamment la semaine dernière où il remporte à Lyon avec un niveau au-dessus de tout le monde. C'est que là, j'ai remarqué qu'à chaque fois que Medvedev essayait de jouer un peu plus long, de créer la différence, il y a Tsitsipas qui arrive, ce qu'il ne faisait pas forcément avant. Il a toujours eu ce sens tactique, Tsitsipas, qui le caractérise. Moi, je trouve qu'il arrive à frapper encore plus fort, encore plus lourd sur une frappe, sur une fin de rallye, qui lui permet de reprendre l'avantage et derrière d'utiliser sa stratégie amortie, court croisé, tout ce qu'il sait faire depuis longtemps. Avant, je trouvais qu'il arrivait à créer la différence de par ce sens tactique. Là, depuis quelques mois, il arrive à faire la différence en qualité de frappe, et notamment côté revers, ce qu'il n'arrivait pas à faire. On a l'impression qu'il est en train de lâcher les chevaux, qu'il est en train de physiquement s'étoffer aussi, parce qu'il est tout jeune, et que là, face à un Medvedev qui est quand même un grand gabarit, même si ce n'est pas sa surface, sa balle est lourde, sa balle va vite, et bien à chaque fois, il arrivait finalement à le déstabiliser en puissance pure. Et ça, je trouve que c'est relativement nouveau chez Tsitsipas.
Laurent, tu n'étais pas vraiment d'accord avec Bertrand sur le terme « bon match ». On a vu un combat quand même. Medvedev a eu des occasions dans le deuxième set, dans le troisième set.
Oui. Ce qui est vrai, c'est qu'il ne lui manque pas. Ça aurait pu, pour moi, être un très bon match s'il avait gagné le deuxième set, surtout. Il ne manque pas grand-chose. On a vu des matchs basculer après pour moins que ça. Mais globalement, moi, j'étais un peu déçu par le match parce que j'étais un peu déçu par Medvedev. Je trouve qu'on a retrouvé un peu le… Le Danil des mauvais jours sur Terre, il fait un très très mauvais premier set, énormément de fautes. J'ai trouvé qu'il s'est beaucoup précipité. J'ai l'impression qu'il avait décidé de finir systématiquement l'échange en trois ou quatre frappes. Donc j'ai trouvé qu'il manquait de patience, comme on le voit malheureusement souvent sur terre battue. Donc
Mais pas
moi,
dans les deux sets suivants, hein.
ouais, pas dans les deux sets
Après, t'as pas
suivants, mais
surpris en montant au filet plus que d'habitude avec pas mal de réussite,
moi,
quoi.
j'ai
C'est
trouvé
pas.
qu'il n'avait pas tellement de. Enfin, Medvedev n'avait pas vraiment de fil conducteur aujourd'hui. Je n'ai pas bien compris ce qu'il essayait de faire ce soir. Honnêtement,
Hormis le premier
il
set, moi,
fait.
je trouve que... Non, je trouve que Medvedev fait quand même plutôt un bon match. Je crois que c'est Tsitsipas
Moi, je trouve.
qui rend les choses
Je trouve que côté
plus
revers,
difficiles.
notamment, il a arrosé, il a fait beaucoup, beaucoup de fautes. Alors après, oui,
Au premier set, ouais.
les deux derniers sets sont accrochés, mais moi, honnêtement, je ne suis
Mais
même pas sûr
ce
que
manque
s'il
de
avait
fil
pris un set,
conducteur, on
ça
le
aurait
voit,
changé
Laurent,
grand-chose.
notamment sur la fin où il joue très long, il repousse Tsitsipas et il tente des amortis d'un peu loin. On sent, je vois ce que tu veux dire,
Oui,
que
parce que je trouve
vraiment,
qu'il est
il tente
assez
des
vite,
choses, il n'est
il a
pas convaincu,
été
vraiment.
dépourvu de solutions. Et voilà, j'ai l'impression que oui, il a tenté des choses. Donc il a fait un ou deux points magnifiques. Il fait peut-être il fait le point du match et un des points de la quinzaine, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais enfin, ce n'est pas ce qu'on peut retenir d'un match de 2h30 et 3-7. En revanche, Tsitsipas, j'ai trouvé qu'il était vraiment très 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 bon. Et je l'ai trouvé super agressif. Il a pris la balle très tôt. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Des deux côtés, coup droit et revers, on sent que vraiment il avait décidé d'étouffer Medvedev et il a parfaitement réussi. Donc je peux pas dire que je sois bluffé parce que Tsitsipas il fait une très bonne saison, c'est sur terre il est parmi les tout meilleurs cette année notamment. Mais là dans cette quinzaine vraiment il a des profils très différents à chaque fois face à lui et à chaque fois il a la réponse et ça c'est vraiment le plus intéressant pour moi pour lui et vraiment aujourd'hui, moi je l'ai trouvé, même si le score des deux sets suivants est serré, c'est vrai, ça ne joue pas à grand-chose, mais j'ai trouvé qu'il était quand même très au-dessus. Et surtout, il y en avait un qui avait un plan et qui l'a appliqué du début à la
C'est
fin.
ça. Ouais.
Et l'autre, j'ai trouvé que. Enfin, l'autre, je ne vais pas dire ça. Et en face, Medvedev était. Je ne vais pas dire perdu, mais pour moi, ce service à la cuillère un petit peu à la fin,
Ce que j'allais dire,
c'est
on n'a pas
anecdotique,
parlé
mais finalement, ça résume un petit peu ce côté, bon, je ne sais pas quoi faire, donc là, c'est un peu extrême sur la balle de match, mais bon, j'ai été un peu déçu par Medvedev, il n'empêche qu'il a fait un très bon tournoi, pour moi, c'est au-dessus de ses espérances, son bilan, donc il peut repartir qu'avec un bon feeling pour la suite de la saison. Il est déçu ce soir, il était frustré surtout, je pense qu'il était très frustré
Il y a
aussi.
un point extrêmement positif sur ce service à la cuillère de Medvedev sur balle de match de Tsitsipas, c'est qu'il est prêt pour l'animation paddle qui commence demain matin à Roland-Garros. Il y a un cours de paddle qui va être créé, il va y avoir plein d'animations, parce qu'honnêtement, son service justement à la cuillère était typiquement paddle.
Ça, c'est la
Donc
promo
Danil,
pour
ne
Deep. Hein.
pars pas, ne rentre pas chez toi, il reste quelques jours avec nous.
Je ne sais pas s'il sera d'humeur mercredi, Daniel, à aller faire du paddle. Peut-être.
Non,
Hein.
mais de mercredi à dimanche, donc
Ah oui,
puis
bah
Laurent,
tu dis que c'est anecdotique, mais c'est quand même une image qui va faire le tour du monde. C'est quand même
oui, c'est
incroyable dans un
anecdotique,
quart de
mais
finale de tenter
oui.
ce geste-là quand on est numéro 2 mondial en plus. Surtout qu'il y a match à ce moment-là. Ben, il n'a pas perdu.
Non, parce qu'il n'a pas de break
Vois?
de retard non plus. Il n'est pas mené
Oui.
5-1 dans le troisième. Donc, il peut y avoir un tie-break derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est anecdotique parce qu'il ne perd pas le match là-dessus, évidemment, sur ce geste. Mais c'est un peu symbolique de son absence de solution pour moi. Et voilà, c'est. Oui,
Il a sa
ça.
première balle de service dans ces cas-là, comme solution
Ben oui,
première,
mais
basique.
le fait qu'il fasse ce choix à ce moment-là est assez révélateur du côté bon, je ne sais plus trop quoi faire. Et limite, il y a un petit côté, ça me saoule quand même. Ça, quand on voit ça, c'est bon, c'est un peu cocasse. Mais c'est Daniil Medvedev. Hein, voilà, de temps à autre, on sait qu'il peut redevenir erratique un petit peu dans son comportement. On l'a vu aussi se fâcher avec l'arbitre. Hein. Je crois qu'à 5-4 dans le troisième, il sort quand même. C'est à cause de toi si je perds ce match ou je sais plus ce qu'il dit
Oui,
exactement,
mais il le
mais
dit de
c'est pour
manière
un problème d'écran,
humoristique.
c'est ça?
Oui, il y avait un problème d'écran qui l'a gêné au moment de servir sur son premier service, mais il l'a dit de manière
Humoristique, ouais.
humoristique. Hein, ouais.
Ouais.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Medvedev, mais quand même, Tsitsipas, sans faire de bruit, il enchaîne si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi, une troisième demi-finale consécutive en Grand Chelem. Là, il a
C'est
quand
vrai.
même un niveau qu'on ne lui a probablement jamais vu, avec une maturité quand même très forte désormais dans son jeu. Ce pose-là, ce n'est pas une surprise, mais il confirme
sait
quand
ce
même
qu'il sait
sortie
vraiment
après
ce qu'il fait.
Sortie.
Ouais. Il sait ce qu'il fait. C'est très construit et on
de
le
plus
sent
en plus
très
même.
Serein. Ouais.
Il sait de plus en plus qu'il fait. Encore une fois, sur terre battue, qui est sa surface de naissance, celle sur laquelle il a grandi, il sait connaît exactement ses schémas de jeu et c'est ce qui lui donne un gros avantage par rapport aux autres de sa génération. Je trouve qu'il sait peut-être encore plus là ce qu'il fait, où il va, que sur dur. Et il est, je trouve, de plus en plus mûr, de plus en plus mature dans sa façon d'aborder ses grands chelems. C'est pas du hasard si c'est une troisième de suite, mais à chaque fois, on a l'impression qu'il est un peu plus fort quand même. Et déjà, l'an dernier ici, néanmoins, il a quand même poussé Djokovic au 5-7 en demi-finale. Donc, ouais, il est en train de bien tenir son rang. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, bien tenir son rang dans cette partie de tableau où il n'y avait pas les favoris, les très grands favoris. Et on a vu parfois, notamment à Miami cette année, quand il s'est retrouvé avec Medvedev, favori, bah, ils n'ont pas réussi ni l'un ni l'autre à tenir ce rang de favori. Ce n'était pas facile d'être le favori de ce bas de tableau. Et pour l'instant,
et les deux sont là. Hein. Le vainqueur de Monte-Carlo contre le vainqueur de Madrid. Donc c'est...
Ouais, ouais. Ils sont bien présents. Et en jouant, en plus, je trouve tous les deux un très bon tennis.
C'est justement le thème, notre prochain sujet, la question qui fâche, puisqu'on va parler d'Alexander Zverev, hein, qui s'est qualifié pour les demi-finales un peu plus tôt dans la journée en dominant dans les grandes largeurs Alejandro Davidovich Fokina. Il confirme ses grosses prestations, hein, qu'on lui a vu faire depuis le début du tournoi. Mais la question qui fâche, moi, c'était la question que j'avais envie de vous poser, vous allez peut-être me contredire, mais est-ce qu'il est vraiment reconnu à sa juste valeur, Alexander Zverev ? On peut quand même en douter, non ? C'est vrai qu'on ne le sent pas accompagné d'une aura démesurée, alors qu'il a déjà une carrière phénoménale pour son âge. Il a quand même gagné le Masters, il a été numéro 3 mondial, il a gagné plusieurs Masters 1000, il est finaliste en Grand Chelem. Je ne suis pas certain qu'il soit considéré vraiment à sa juste valeur, non ?
Clairement pas. Non, on en a un tout petit peu parlé l'autre jour. Moi, je pense qu'on est assez injuste avec Alexander Zverev parce qu'il a été très fort très vite. Il a été numéro 3 mondial à 20 ans. Il a gagné des Masters 1000, son premier Masters 1000 à 20 ans. Il a gagné le Masters, il devait avoir 21 ans. Et comme derrière, il a connu une forme de crise de croissance et on s'attendait à ce que très vite, il batte les Nadal, les Federer, les Djokovic en Grand Chelem, qui gagnent des Grands Chelem. Ça lui prend du temps, il n'a toujours pas gagné de grand chelem. Et moi, ce qui me sidère, c'est qu'on est vraiment dans l'époque du poisson rouge, quoi. C'est-à-dire que le dernier qui a gagné a raison, le dernier qui a perdu a tort et définitivement, et on enterre les gens à une vitesse. Moi, j'ai quand même vu, lu ou entendu que Alexander Zverev, c'était fini, il n'y arriverait jamais, il ne ferait jamais rien, alors que le mec avait 22 ans, 23 ans. Je rappelle quand même qu'il y a un joueur comme Stan Wawrinka qui, à 27 ans, n'avait même pas fait une demi-finale en Grand Chelem. Finalement, il a fait une petite carrière assez sympathique derrière. Donc, les joueurs avancent à leur rythme. Et ce n'est pas parce qu'un joueur à 23 ans ou 24 ans n'a pas gagné le tournoi du Grand Chelem qu'il est bon à rien ou qu'il sera bon à rien ad vitam aeternam. Zverev, il franchit des paliers. Ça ne va peut-être pas aussi vite que certains voudraient. Il a des lacunes, il a des carences aussi qui sont en plus très visibles. Donc, que tout le monde peut remarquer. Enfin, Zverev, sur les 5 derniers tournois du Grand Chelem, c'est une finale, 2 demi, 1 quart et 1 huitième. Et encore une fois, son huitième l'année dernière à Roland-Garros, où il perd contre Sinner, il était un peu malade. Et en plus, il avait l'US Open dans les jambes et dans la tête. Donc moi, je trouve que c'est un joueur qui est en progression, qui est plus très loin aujourd'hui. Évidemment, on peut gagner un grand chelem sur un one-shot en faisant rien pendant 3 ans et en gagnant le tournoi. Enfin, le meilleur moyen de gagner un grand chelem, c'est d'abord d'être constant en arrivant à chaque fois en quart, en demi. On se met en position de pouvoir aller au bout. C'est ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas s'il va aller au bout là, j'en suis pas convaincu. Si on devait avoir une demi-Nadal Djokovic, clairement, il serait sur le papier le quatrième homme parce que même par rapport à Tsitsipas, Tsitsipas a donné plus de garanties que lui pour moi, y compris dans ce tournoi. C'est vrai qu'il a eu un tableau facile, mais oui, je pense qu'on manque un petit peu de respect à Alexander Zverev et il faudrait reconnaître quand même qu'il progresse, qu'il a des mérites et qu'il a encore une énorme marge de progression.
T'as pensé à Chang là, sur le one shot, hein. T'as senti énervé le huitième contre Lendl, tout
ça. Pas que, non.
Ah, c'est un petit peu quand même. J'ai senti
non,
là le one shot. T'étais en 89. Oh,
faut
je te vois.
Faut que t'arrêtes avec Lendl. Donc,
en tout cas, pour dire sur ce que disait Laurent, Je suis d'accord avec lui. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a effectivement été, entre guillemets, très mauvais en Grand Chelem jusqu'à cette fameuse très belle série actuelle. Mais ce qui rend les choses pour Zverev, comme tu les as décrites, Olivier, tout à l'heure, c'est parce qu'il a de grosses irrégularités dans ses matchs, dans son jeu, dans ses tournois. Alors effectivement, en ce moment, en Grand Chelem, ça n'est plus le cas. C'est encore le cas de temps en temps dans d'autres tournois. Je pense à Miami, où j'ai commenté son match contre Russell Vuorist et son premier match contre le Finlandais. Il gagne le premier 6-1 ou 6-2. Et derrière, il n'y a plus personne. Il prend une rouste en étant complètement cuit physiquement. Incompréhensible. Il y a ces fameux matchs où il peut passer du chaud au froid, même du glacial au bouillant très rapidement ou inversement. Je repense à l'US Open de l'année dernière. Quart de finale contre Coric, il est mené 6-1, 5-2, et d'un coup, il se met à jouer alors qu'il était complètement à l'envers. Il se met à retrouver un bon tennis et à gagner en 4. Derrière, en demi, il est mené 2-7-0 par Carreño Busta en faisant un début de match désastreux. Et pareil, il se reprend et il gagne. Ensuite, il y a cette finale d'anthologie que tout le monde connaît où ça pousse la balle à la fin entre les deux joueurs. Donc, avec un niveau moyen qui peut être parfois très bas, il arrive à rester très haut en termes de résultats en Grand Chelem. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est aussi ça qui fait que les gens disent « Zverev, ce n'est pas terrible. Regardez, il fait 15 doubles fautes par match ou il passe complètement à côté d'un set ou de deux sets. » Voilà. Alors ça, ce sont des choses qu'il est en train de gommer. On voit ici à Roland-Garros, il fait des matchs pleins. Je l'ai trouvé énorme en huitième de finale. Aujourd'hui, bon, Davidovich Fokina était complètement rôti, donc complètement cuit. Donc, il n'y a pas eu de match. C'était ce que j'attendais. Mais le tour d'avant, contre Nishikori, un premier set un peu accroché derrière. Tout le monde dit Nishikori était cuit aussi, mais non, je ne crois pas qu'il était cuit. Je crois que Zverev a fait un très gros match avec Curry, le japonais. Donc, il est en train de progresser dans la régularité. Et c'est quelque chose de très important. Et c'est peut-être en continuant à progresser dans cette régularité qui va être pris de plus en plus au sérieux et qu'on ne dira plus, ouais, Zverev, enfin voilà, qu'on ne pourra plus dire, Zverev n'est pas pris au sérieux.
En fait, c'est intéressant ce que tu dis, Bertrand, mais en règle générale, sur le tennis, c'est quand même un sport, à part pour les tout meilleurs, où on voit tes faiblesses, fenêtres ouvertes. Parfois, ce n'est pas facile à assumer, et notamment quand on est jeune et qu'on a envie de montrer qu'on est grand, c'est un beau garçon, enfin, il a tout pour lui, et que tout d'un coup, d'être confronté à la gestion de « ben là, ouais, je n'ai peut-être pas assuré parce que j'ai eu une certaine émotion », ce qui est tout à fait normal. Peut-être qu'il a eu du mal aussi à engranger de la confiance sur ses premières années sur le circuit. Et moi, je pense surtout qu'il est arrivé beaucoup trop tôt numéro 3 mondial. En fait, il était tout frais, il a débarqué et on lui en a demandé beaucoup trop tôt. Et ça, c'est aussi peut-être le système de classement à l'ATP où il a très bien joué sur les gros tournois à ATP. Et que derrière, en fait, il s'est retrouvé une position, peut-être qu'il n'avait pas encore le niveau moyen pour se retrouver dans une année numéro 3 mondial. Et je ne suis pas sûre que ça l'ait aidé, c'est peut-être pour ça qu'il a perdu un peu de temps, mais chacun son histoire. À un moment donné, à son âge, être 3 mondial, c'est que ça ne tombe pas du ciel, donc c'est qu'il a une base tennistique et mentale, parce que c'est un gros bosseur et c'est un joueur très structuré, un peu à la Tsitsipas, et il a besoin d'un petit peu plus de temps, comme tu disais, Laurent, pour gérer ces freins qui ont pu l'embêter. Mais oui, je pense que cette place très tôt l'a handicapé.
Ouais. Ce qui énerve un peu chez Zverev aussi, peut-être la perception qu'on peut avoir de lui, c'est sa façon de jouer. Il a toutes les armes. Tu l'as dit, Camille, il peut frapper très fort des deux côtés, en coup droit, en revers, et il peut mettre l'adversaire à 4 mètres. Franchement, quand il joue comme contre Nishikori, on se demande ce qu'on peut faire. Quand il joue comme ça, quand il est dans le terrain et qu'il distribue ses pains des deux côtés et qu'il sert bien, c'est vraiment très difficile. Seulement, de temps en temps, et même souvent, malheureusement, on le voit se mettre 2 mètres derrière la ligne, 3 mètres derrière, distribuer. Il joue court, il n'y va pas vraiment dedans. Et du coup, quand il y va parfois, il fait des fautes parce qu'il n'a pas vraiment l'habitude. Il a perdu l'habitude d'attaquer. Enfin, il y a des matchs comme ça où je ne sais pas pourquoi, il se met en retrait, il recule. C'est un peu un problème qu'on reprochait à Richard Gasquet, pendant toute sa carrière d'ailleurs. Zverev, c'est un peu ça. Et il est peut-être en train de le gommer. En tout cas, ici, je ne l'ai pas vu jouer trop comme ça, si ce n'est au tout début du tournoi. Mais c'est une interrogation. C'est une interrogation qu'on peut avoir sur lui. Pourquoi, de temps en temps, il est obligé de reculer, de se mettre à jouer court, alors qu'il a la capacité de jouer sur sa ligne et de prendre un avantage énorme sur l'adversaire, parce qu'encore une fois, il est monstrueux des deux côtés, et s'il veut produire un tennis d'attaque et vraiment jouer avec sa puissance, il est capable de le faire.
Vas-y, Olivier.
Non, j'allais rebondir moi aussi sur peut-être un problème de personnalité aussi, de perception du public. C'est qu'on est quand même dans un monde où l'apparence compte énormément. Et c'est vrai qu'il a peut-être pas encore le charisme, ou tu vois, il dégage pas.
Moi, je trouve
comme
qu'il a
le charisme.
Je sais pas ce qu'on appelle le charisme. Enfin, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui dégage quelque chose. Après, c'est pas une personnalité hyper extravertie. Il a pas l'humour de Daniil Medvedev, par exemple. Il a pas.
Et toi, tu es fan de Lendl, par exemple. Donc, évidemment, tu vas le défendre.
Vous allez arrêter.
Laurent, tu n'avais pas vu à Monaco, et à la fin du match où c'était à huis clos, il est allé s'auto-applaudir dans une.
Ouais, heure. C'était sympa pourtant.
Donc,
c'est vrai.
Sympa, quoi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense que ce qui lui manque aussi, c'est une très grande victoire dans un match vraiment un peu inoubliable dans un grand chelem. Tsitsipas a battu Federer, il a battu Nadal à l'Open d'Australie. Medvedev n'a pas forcément battu des immenses joueurs en grand chelem.
Tu rigoles, il a gagné le match décisif en Lever Cup. Enfin, Laurent, il était à genoux, tout le monde a sauté dessus, c'était exceptionnel.
C'est vrai que la Lever Cup est le cinquième grand chelem maintenant.
Ça rapporte des points.
Second degré, hein, je précise.
Non, il lui manque vraiment ça, je pense. C'est-à-dire que je pense que sa plus grande victoire aujourd'hui en Grand Chelem, ça doit être son match contre Wawrinka à Melbourne il y a un an et demi. C'est sa victoire sans doute la plus prestigieuse, en tout cas si je n'ai pas de trou de mémoire. Je crois que c'est ça qui lui manque aussi. Medvedev, encore une fois, il n'a pas battu d'immenses joueurs. Il a battu Tsitsipas cette année, mais il a fait deux finales. Et la finale qu'il a fait à Flushing contre Nadal, même si c'est une défaite, il a montré ce jour-là qu'il était capable de se hisser à la hauteur de ces joueurs-là. C'est aussi ce qui manque à Zverev par rapport à un Tsitsipas ou un Thiem qui a battu deux fois Djokovic à Roland-Garros, par exemple.
Donc, il a battu d'immenses joueurs au meilleur des trois, mais pas au meilleur des cinq. Donc, Zverev peut militer.
Au meilleur des trois, ils l'ont quasiment tous fait, des joueurs de ce niveau. Hein. Voilà, ouais. Donc, il lui manque ça aussi, je pense, pour qu'on se dise, bon, OK, parce que finalement… Ce qu'on entend beaucoup, c'est « Ok, là, il est encore en demi-finale, très bien, bravo, mais on va en parler dans quelques instants avec la stat, il a, entre guillemets, battu personne, ou pas grand monde, voilà, personne, avec beaucoup, beaucoup de guillemets, bien évidemment. Mais il n'a pas eu un tableau monstrueux, donc peut-être que c'est ça qui lui fait défaut dans la perception que les gens ont de lui aussi. »
Oui, la stat, on va en parler dans quelques instants. Donc, il faudrait qu'il batte Nadal en finale, en fait, hein, pour qu'il marque vraiment
Je pense que s'il bat Tsitsipas en demi, déjà, c'est un bon début.
Ouais. C'est pas mal, déjà, ouais.
Bon, rapidement, parce qu'on en reparlera dans la semaine, évidemment, dans Terre débattue, hein, de cette demi-finale entre Zverev et Tsitsipas. Mais les statistiques, hein, je regardais, Tsitsipas mène 5-2. Mais à Acapulco, en finale, cette année, c'est Zverev qui s'est imposé. C'est la première fois qu'ils vont s'affronter en grand chelem. Si j'ai bien compris, entre les lignes, c'est quand même Tsitsipas le favori. Hein.
Oui.
Pour moi, oui.
Ouais,
oui.
Pour moi aussi, ouais.
Oui. Pas forcément en 3-7 comme aujourd'hui face à Medvedev, mais…
L'avantage, c'est que Zverev arrive vraiment très, très frais. Hein. Et heureusement pour Tsitsipas qu'il a gagné ce soir finalement en 3-7, parce qu'il aurait pu s'embarquer dans un match un peu plus long. Heureusement pour lui, parce que Zverev, alors là, franchement, il n'a pas laissé… À part le premier tour, et encore, ça a été quand même assez rapide, où il avait perdu les deux premières manches contre Oscar Otte, là, son compatriote. Oui. Après, là, les deux derniers matchs, ça a été une formalité.
Mais c'est vrai que Tsitsipas affiche des certitudes
ouais.
Et dans ce tournoi et globalement sur ce printemps qui font que c'est difficile de ne pas le considérer comme légèrement au-dessus sur le papier. Mais après, encore une fois, c'est une demi-finale.
Exactement.
Tsitsipas a toujours perdu en demi pour l'instant. C'est aussi quelque chose… Enfin, il y a plein de choses qui peuvent le travailler. Donc, moi, j'espère vraiment un super match en tout cas.
Bon, on en parlera plus longuement, évidemment, dans un prochain numéro de Terre débattue avant les demi-finales qui auront lieu vendredi. Tu parlais, Laurent, de la stat jeu 7 et mat, hein, où on évoque justement Alexander Zverev. On s'intéresse à cette stat tout de suite. La stat de jeu 7 et mat, le compte Twitter dont nous sommes partenaires. Donc, on parle de Zverev, on apprend. Constance nous apprend que Zverev est le septième joueur depuis 1985 à se qualifier pour les demi-finales à Roland-Garros sans avoir affronté le moindre joueur du top 40. C'est vrai que c'est une statistique éloquente. Les autres joueurs qui sont parvenus à atteindre le dernier carré sans affronter le moindre top 40, eh bien, il y a eu Henri Lecomte en 1986. Il y a eu Stich également en 91, Marc Rosset, j'avais oublié que Marc Rosset avait atteint les demi-finales ici, c'était en 1996. Il y avait
J'espère qu'il ne va pas nous écouter.
Ljubicic en 2006, Djokovic en 2007, Nadal en 2020 et donc Alexander Zverev cette année. C'est vrai que c'est une statistique éloquente. Qu'est-ce qu'on retient de cette stat?
Surtout cette stat Ce qu'il faut en retenir, c'est que dans toute cette liste, ce qui n'est pas très bon signe pour Alexander Zverev, c'est qu'à part Nadal l'année dernière qui a gagné le tournoi, tous les autres se sont arrêtés en demi-finale. Tous ceux qui ont atteint les demi sans jouer de top 40 ont perdu en demi, sauf Nadal, mais Nadal, c'est Nadal. Donc,
alors,
c'est
si on,
pas
si
très
on veut
bon signe
conjurer...
pour notre ami allemand.
C'est vrai, mais si on veut conjurer le sort, il faut quand même rappeler que dans les joueurs qu'il a battus cette année, certes,
il y a un finaliste de
il y a quand même Nishikori qui n'a pas vraiment le niveau d'un top 40. Hein. Nishikori, c'est quand même plus un top 20 qui a été aussi top 10. Et
parce qu'il décline quand même, Nishikori.
Bah, quand même, Nishikori, il y a encore un niveau. Bah, évidemment,
oui, il est en train de revenir.
Comme un niveau intéressant. Hein. Ouais. Il n'est pas à son tout meilleur niveau qu'il a eu effectivement il y a quelques années, mais parce qu'il était très, très souvent blessé. Mais on ne peut pas le considérer comme un top 40. Toi. Nishikori, c'est quand même un joueur qui vaut un peu plus.
Bah non, il n'est pas dans le top 40, donc on ne considère pas.
D'accord, mais je veux dire intrinsèquement.
Ouais. Après, le problème aussi, c'est qu'il n'a pas choisi Alexander Zverev son
sûr.
Tableau et que je ne suis pas sûre que ça l'aide pour aller affronter Tsitsipas de pas être montré crescendo sur ce tournoi. C'est qu'en termes de niveau de jeu, en fait, vos adversaires vous font progresser match après match pour essayer de jouer plus long.
Aujourd'hui, il avait un client quand même sur terre battue, mais le problème, c'est qu'encore une fois, il est arrivé totalement rôti à cause de Botique, une vote de Zanthule pour le deuxième tour, notamment, qui lui a pris 2-7, qui était
pas du tout prévu.
J'ai placé Botique en ligne, en l'occurrence. Et donc, dans la foulée, il a eu un autre 5-7 contre Rude, qui était un match énorme, auquel il a laissé énormément d'énergie physique, mentale, etc. Et encore un 4-7 au tour suivant contre Delbonis. Il aurait pu le gagner en 3, mais il a perdu le 3e, donc il s'est mis encore dans un match un peu plus long. Et on a vu la tête qu'il avait à la fin du match contre Delbonis. On a tous su que c'était terminé, son tournoi. Et aujourd'hui, effectivement, il a fait illusion pendant quelques jeux. Et puis derrière, il était tellement cramé qu'il ne pouvait rien faire. Donc ça, c'est dommage. Ça aurait pu être un match un petit peu plus serré pour Zverev. Ça aurait peut-être plus aidé, finalement, d'avoir une opposition un peu plus forte aujourd'hui que ce qu'elle a été.
C'est vrai qu'on dit qu'il a eu un tableau facile, mais je ne suis pas sûre que s'il veut aller au bout d'un tournoi, que ça soit finalement une chance pour lui de ne pas avoir eu peut-être un vrai client au troisième, quatrième tour. En tout cas, client sur le papier, Davidovich en était un, tu le disais Bertrand, mais ça, les questions de tableau, à un moment, il faut aller gagner les matchs quand
oui,
ils se présentent.
De toute façon, on prend ce qu'il y a, entre guillemets. Donc,
voilà.
Oui, et puis s'il va au bout, on oubliera très vite
mais
son,
peut-être,
sa
voilà,
première
il va
semaine.
Bah, déjà, il faudra qu'il batte deux top 40. Hein.
Oui, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Allez, on va basculer maintenant vers la journée de mercredi avec l'affiche du jour. L'affiche du jour pour nous de ce mercredi, c'est évidemment le Djokovic-Berrettini, parce que d'abord, c'est un gros match. Et puis, l'événement au-delà de l'affiche, c'est la présence pour la première fois du public dans une session de nuit. Il y aura, si je ne dis pas de bêtises, 5000 personnes. Ça va tout changer quand même par rapport à la perception de ces matchs de night session de soir.
Ça va faire du bien, oui.
Ce ne sera pas Flushing Meadow, mais ça va…
Bah, on a testé la night sans public à plusieurs reprises.
On a pas
voilà, j'en ai parlé dans les chroniques. On a testé. C'est très particulier. Il faut l'avoir vécu une fois dans sa vie parce que j'espère que ce ne sera qu'une fois dans sa vie et que maintenant, on aura du public à chaque fois. C'est quand même très particulier, mais on entend tout. On entend ce que dit l'arbitre au ramasseur, on entend ce que se disent les joueurs, on envoie Dani
Medvedev
qui sort du cours pour aller dans les allées pour dire un peu moins de bruit aux gens de l'entretien. Ça, c'est quand même exceptionnel. C'est quelque chose qu'on ne verra plus, je pense. Hein. Donc, voilà. Alors maintenant, oui, on a hâte de voir effectivement avec public ce que ça va donner. Et je pense que pour les joueurs, ce sera quand même un petit peu plus facile que là. Surtout les jours, il faisait froid, ça avait salé ce soir, mais il y a des jours où il a fait un peu frisqué quand même le soir. Hein.
Match qui va démarrer à 20h. Alors, on va parler de Djokovic. Hein. On ne sait pas trop quoi penser, hein, d'ailleurs, de Djokovic après son drôle de match au tour précédent face à Musetti. Lui, Berrettini va arriver frais forcément après le forfait de Federer en huitième de finale. Qu'en pensez de Djokovic jusqu'à maintenant, et comment l'imaginez-vous ce match contre Berrettini? Ils se sont déjà affrontés, mais c'était une autre époque. Hein. C'était au Masters, en plus une autre surface.
Ouais, Berrettini était un peu à la rue au Masters.
Ouais. Il n'était pas vraiment là. Ouais.
Vous vous attendez à quoi comme match? Est-ce qu'il y aura match? Est-ce que ça va être un cavalier seul?
Non, mais la question, alors je suis désolé, je parle le premier, mais juste la question, c'est toujours la même, la récurrente. Est-ce que c'est bon pour Berrettini de ne pas avoir joué son match ou est-ce que c'est mauvais? Moi, j'ai tendance à penser que c'est mauvais, en fait, d'avoir eu 4 jours sans jouer. On en parlait avec Laurent tout à l'heure. On se souvenait de 2011, quand Fonini bat Montagnès en étant complètement blessé en fin de match. En fait, il s'est déchiré un adducteur et il ne peut pas jouer son quart de finale contre Novak Djokovic. Tout le monde dit « Ah, bah, c'est très bon pour Djokovic qui était invaincu en plus en 2011 à ce moment-là de la saison, qui n'a pas perdu un match. » On se dit « Pour jouer contre Federer, il va arriver bien frais et tout, c'est bon pour lui. » Et finalement, Federer a gagné ce match qui avait été un des très, très grands matchs de Roland-Garros des 10 dernières années et plus. Et donc, finalement, ça ne l'avait pas servi, Novak Djokovic, de ne pas avoir joué pendant 5 jours à l'époque. Là, ça va faire 4 pour Berrettini. Et je pense que c'est un désavantage pour lui de ne pas avoir eu de compétition, de changer la routine, tout simplement. En Grand Chelem, on joue un jour sur deux. On est préparé pour ça, on est habitué à ça. Et on n'est pas prêt pour jouer un jour sur 4. Donc, je pense que c'est un avantage, et c'est un peu paradoxal, mais un avantage pour Djokovic que Berrettini n'ait pas joué de 8e.
Après, moi, je pense que ça va quand même faire un gros match. Parce que Berrettini a justement la puissance pour aller déstabiliser Djokovic, mais au final, moi, c'est un magicien ce Djoko, il arrive toujours à se sortir de situations improbables. Là, il se fait malmener par Musetti, mais derrière, il arrive toujours à remettre un petit coup d'accélérateur. Donc moi, je vois bien un gros match bien intense avec du public, bien chaud, avec un 5-7 pour Djoko, quoi. Voilà.
Ah oui, 5-7. Carrément.
Alors, malheureusement, le public sera pas chaud pour la fin du match parce que si ça fait 5-7, j'ai peur
ça
que tout le monde.
Ah oui. Ben, il y aura tout,
il y aura.
Il y aura malheureusement le speaker qui va mettre dehors les gens à 23h. Non, et j'ai envie de la totale.
Ce sera pas toi. Tu connais bien Camille, ça. Hein. Tu t'es fait siffler un petit paquet de fois.
Mon cher Marc,
bon,
voilà,
ça va alors.
5-7 pour que tu vives ça.
On pense après à te faire siffler dans ce tournoi, Camille.
Non, mais là, comme le dit Camille, il va y avoir match quand même, parce que Berrettini, on le connaît tous maintenant, c'est un solide top 10, il confirme ça, l'année de révélation. Je te vois faire l'amour, Bertrand.
Non, il y aura match ou pas. Hein, ou pas.
Moi, je pense que.
On parle quand même d'un joueur qui a gagné Belgrade, qui fait finale à Madrid.
Il y a le meilleur relanceur du monde déjà. Donc,
Djoko aussi a gagné Belgrade. Hein.
Berrettini, il a pas le jeu. C'est pas Musetti, quoi. C'est pas le même type de jeu. Je sais pas si c'est un jeu qui embête beaucoup Novak Djokovic. Frapper très fort, un bourrin de fond de court, frappe très fort en fond de court et un gros service. En général,
un bourrin de fond de court, ça va lui faire plaisir.
Bah un peu quand même. Après, je trouve qu'il a progressé. Tu as raison, Olivier. C'est dur ce que je viens de dire parce qu'il a beaucoup progressé et qu'il sait aussi jouer parfois en finesse. Et que je trouve qu'il progresse énormément. Donc ça, c'est vrai.
Il peut le mettre loin. Si Djoko est un peu timide, il a la qualité de frappe pour un moment vraiment le mettre loin. Après, sur la durée d'un match en 5-7, compliqué qu'il tienne justement.
Surtout là, on parle beaucoup de Berrettini, et à juste titre, et je suis plutôt d'accord avec Bertrand sur le fait de ne pas avoir joué depuis plusieurs jours comme ça. Ça peut être difficile, notamment pour un début de match. Et pour Berrettini, le début de match va quand même être très, très important. Mais on ne parle pas beaucoup de Djoko, et je pense qu'il y a une question autour de lui aussi, c'est où en est vraiment Novak Djokovic. Ouais. Et le match un peu bizarre qu'il a joué contre, pas bizarre de sa faute, hein, mais contre Musetti, qui est assez illisible avec 2-7 hyper accrochés, 2h20, il prend 7-6, 7-6, et derrière il ne perd plus qu'un seul jeu, il n'y a plus de match, donc… Moi, la question que je me pose, c'est quelle est la part de Musetti et quelle est la part de Djokovic dans ce qu'on a vu dans les deux premiers sets. Et cette réponse-là, on aurait pu l'avoir si Musetti était resté dans le match physiquement, mais comme il en a complètement disparu, pour moi, on n'a pas vraiment eu cette réponse. Alors, Djokovic a dit un truc intéressant après le match, il a expliqué, on lui a dit « Est-ce que vous étiez… nerveux après la perte du deuxième set, et il a dit qu'en fait il était beaucoup plus nerveux au début du match.
Ça se voyait, hein.
Et c'est quand même assez étonnant, je veux dire, Novak Djokovic qui joue contre Lorenzo Musetti, qui a énormément de talent, mais c'est quand même un jeune joueur de 19 ans, que Djokovic se soit retrouvé aussi nerveux comme ça en début de match, et il a pris beaucoup de mauvaises décisions, enfin, c'était assez étonnant. Alors, certes, Musetti a joué un tennis formidable, mais il reste pour moi une petite interrogation autour de Novak Djokovic, et c'est la réponse que j'attends, moi, demain soir, de sa part. J'espère qu'on pourra l'avoir. Quand je dis j'espère, c'est-à-dire que si il gagne en 3-7 et que Berrettini passe complètement au travers, on aura encore cette forme d'incertitude avant une potentielle demi-finale contre éventuellement, voire probablement, Rafael Nadal. Donc voilà, moi, c'est plus par rapport à ça que ce match contre Berrettini m'intrigue. Je pense qu'on sait à peu près ce que va faire Berrettini tennistiquement. Il ne va pas beaucoup nous surprendre. Je ne suis pas sûr non plus que ce soit le schéma de jeu le forcément le plus compliqué à gérer pour Djokovic, mais à condition que ce soit le Djokovic qu'on connaît.
Alors, moi, quand je dis qu'il peut l'embêter, c'est au vu de son match face à Musetti, hein, on est d'accord.
Oui, mais ce qui signifie bien que c'est celui qui a les clés. C'est bien lui qui a les clés, c'est Novak Djokovic qui a les clés. C'est, effectivement, s'il n'y avait pas eu ce match contre Musetti, on ne se poserait pas la question. On se la pose parce qu'il a eu cette difficulté. Et comme vient de le dire très justement... Oui, comme tu l'as dit très justement, Laurent, on est un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas pourquoi il était aussi nerveux, pourquoi il a fait autant de fautes dans les premiers sets, sans rien enlever, bien sûr, à Musetti qui a très bien joué. Mais il a les clés. C'est-à-dire que si, effectivement, on a un Djokovic de qualité comme on l'a eu dans les 3e, 4e, 5e contre Musetti, je pense que ça devrait se passer sans trop de problèmes. C'est si Djokovic n'est pas à son meilleur niveau, qu'il peut avoir des soucis. Et effectivement, comme il y a une petite interrogation sur son niveau actuel, il y a une petite interrogation, forcément, et bien c'est ce qui rend les choses intéressantes et qu'on peut quand même avoir un petit peu de doute.
En fait, vous êtes déjà projeté sur la demi-finale. Vous avez envie de voir dans le match de Djoko s'il est capable potentiellement en demi-finale de battre Rafael Nadal. C'est ça, en
non,
fait.
Oui, mais pas que, parce que franchement, là, s'il est aussi nerveux, qu'il commet autant de fautes contre Berrettini qu'il ne l'a fait contre Musetti pendant 2-7, ça peut être un match compliqué, donc, et potentiellement même très compliqué. Mais oui, c'est lui qui a les clés, clairement. De toute façon, c'est le principe de ces joueurs-là, à part quand ils s'affrontent entre eux, les Nadal et Djoko, ou Federer quand il est au top niveau. Oui, ils ont forcément les clés contre ce type de joueur, c'est certain.
Et puis on peut dire, pour reprendre un petit peu le débat de Zverev, il n'a pas été challengé finalement jusqu'à maintenant. Musetti, après, il a explosé physiquement. Et auparavant, c'est pas sur les matchs.
C'est pour ça que c'est un peu frustrant ce match. Non, ça c'est sûr.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Je pense que donc il n'y aura personne pour dire que Berrettini va gagner ce match et ce quart de finale.
Il faudrait vraiment que je pense que Novak Djokovic passe bien à côté pour perdre. Je ne dis pas qu'il ne va pas être inquiété, mais pour perdre, ou alors il fait un très mauvais match, mais c'est possible. Hein, il en a déjà fait ici des matchs. Il a perdu contre Cecchinato déjà en quart, mais ce n'était pas tout à fait dans les mêmes circonstances et le même Djokovic.
Bon, bien voilà ce qu'on pouvait dire sur cette journée de mercredi. Voilà qui va mettre un terme à cet excellent terre débattue. Je n'ose
même. Il n'y a pas de pronos ?
Ah si, les pronos.
Ah là là, mais oui, les pronos. Mais alors, vous savez quoi ? Parce que j'étais déjà en train de regarder l'heure.
Moi, je l'ai déjà donné, les gars.
Je vous disais, oulala, mais il est tard. Vous voyez,
t'as dit quoi, Camille ?
J'avais envie de terminer le plus vite possible.
J'ai dit Djokovic 5-7.
Ah oui,
exact. Ah oui, alors les pronos. Parce que alors moi, comme j'étais pas là sur les émissions précédentes, faites-moi un petit point. Qui est devant là pour l'instant?
Mais aujourd'hui, on n'a pas joué finalement. Medvedev, on a oublié.
Puisqu'hier, il n'y en a pas eu terre débattue. Il y avait Deep Impact.
Mais alors, qui est devant?
Eh ben, je crois que c'est très resserré de fait que.
Qui est le Novak Djokovic actuel là?
Je crois que c'est 15-14-14, quelque chose comme ça. On va faire le point avec Adrien, mais c'est très serré.
Enfin, un point mercredi.
Ok. Alors les pronos. Donc Bertrand.
Pour Djokovic Berrettini.
Ouais.
Mais je vais dire Djokovic en 3.
Pareil, c'est ce que je voulais dire, donc je ne vais pas changer. Djokovic en 3.
Toi, Camille, donc tu as pris un risque. 5-7, tu restes.
Ouais, le panache.
Le panache.
Ouais, le panache.
Le panache, bien sûr. Qui va payer.
On va surveiller.
Le panache,
ou pas.
Eh bien, écoutez, on fera un petit bilan demain pour le prochain numéro de Terre débattue. Merci Bertrand, merci Camille, merci Laurent. C'était un plaisir,
comme d'habitude.
On va aller se coucher, on l'a bien mérité, je pense, non ?
Ah oui,
oui.
Ah ouais, c'est salut ça. Puis vous n'oubliez pas, Terre débattue, vous retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite évidemment à noter ce podcast sur Apple Podcasts. Vous laissez 5 étoiles et un commentaire. À très vite pour un nouveau Terre débattue. Salut à tous.
Salut.
Salut, à demain.